quatre présentations de 20 minutes chacune, avec entrecoupées de 10 minutes de discussion. Donc ça va être très serré. Je propose qu'on entende Laureline Collomb en premier, autour du geste de guérir chez les soignés sans abri et les soignants. Ensuite, Stéphane Eas, la guérison du pemphigus en France, guérison postulée par les médecins, mais pas toujours vécue comme telle, voire impossible du côté des malades. Gauthier Dionnet, sur les représentations collectives de l'épidémie d'Ebola et de sa guérison à travers le discours des médias, des institutions sanitaires et aussi versus le récit du patient zéro Ebola. Et voilà. Et alors, quatrième, Lise Dacieux, autour de la guérison de la toxicomanie et des manières dissonantes, alors entre professionnels cette fois, d'envisager cette guérison. Merci.
Merci. Merci à l'AMADES d'avoir accepté ma communication. Je ne sais pas si je vais relever le défi que vous avez soulevé, mais je vais essayer d'apporter des petits éléments au moins sur les malentendus entre soignants et soignés sans abri sur ce que guérir veut dire. Est-ce que je parle assez fort ? Ça va ? Alors, donc les conditions extrêmes de vie, voire de survie auxquelles sont confrontés les patients les individus vivant dans la rue les amènent à développer une manière d'être spécifique, pour reprendre les termes de David Le Breton. En fait, ils élaborent un rapport à leur corps, un rapport à la santé, qui correspond au savoir spécialisé et empirique qu'ils en ont. Alors que les soignants, quant à eux, vont adopter des représentations qui tendent plutôt à être scientifisées. Et du coup, l'analyse de leurs interactions... Donc là, quand je parle de soignants, j'entends médecins et infirmiers. Donc l'analyse entre ces médecins et infirmiers et soignés sans domicile fixe permet de mettre en lumière la confrontation justement de deux représentations divergentes du corps, de la santé et par conséquent de la guérison. Donc je présenterai d'abord un premier malentendu entre eux qui porte sur le rapport au corps. Ensuite, je m'attacherai au rapport à la santé. Et enfin, la confrontation de ce que pour eux guérir veut dire. Je me base sur le travail de ma thèse et donc j'utilise une ethnographie multisituée à Strasbourg, dans différents lieux de soins, spécialisés ou non dans le soin ou non des personnes sans domicile fixe, et des entretiens que j'ai menés à la fois avec des soignants et des soignés sans abri. Alors. Les individus qui vivent dans la rue élaborent donc un rapport à leur corps qui correspond à un savoir expérientiel, empirique. Là, j'utilise le terme de Thomasina Borkman qui définit le savoir expérientiel comme une vérité apprise de l'expérience personnelle d'un phénomène plutôt que celle acquise d'un discours raisonné par l'observation ou la réflexion sur des données fournies par autrui. Et cette connaissance, ce savoir, tend à être concret, spécifique et relève du sens commun car ils sont basés sur l'expérience individuelle des faits qui est unique par la limitée et plus ou moins représentative de l'expérience des autres. Et donc ce savoir éminemment individuel de son propre corps, qui est donc propre à l'individu, qui est issu de ses expériences, là pour le coup de l'expérience de survie dans la rue des personnes sans domicile, qui les amène à gérer autrement l'hygiène corporelle, la douleur, les symptômes. Et les soignants, de par leur formation, leur pratique professionnelle, adoptent une représentation du corps qui tend à être plus scientificisée, technicisée, basée sur des connaissances plutôt anatomiques et biologiques. Et on assiste alors, lors de leur interaction, à une forme d'opposition entre des hyperspécialistes du corps que sont les soignants, que seraient les soignants, et des hyperspécialistes de leur corps que seraient les personnes sans abri. Voilà. Donc dans cette interaction-là, en plus, il y a du côté des soignants une importante légitimité qui leur est conférée dans notre société française contemporaine. Voilà, avec l'idée que le profane n'a pas accès à ce savoir, que le savoir scientifique détenu par les soignants leur confère un pouvoir qui permet ainsi d'imposer leur vue aux patients. Comme le montre Elliot Wrightson, le système médical part de l'idée que le profane est incapable d'évaluer la nature de son problème personnel et la manière adéquate de le traiter, C'est ce qui justifie que la profession impose ses propres conceptions. Alors cette ignorance supposée du patient, elle est bien entendu à relativiser, mais cette idée oriente les comportements des soignants. Et leur pouvoir est d'autant plus prononcé que lors des interactions de soins, leurs interlocuteurs profanes sont généralement inquiets, mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe ?
Je sais, on passe, continue, continue.
Ce qui peut créer chez le patient un sentiment d'être dépossédé de son corps au cours de la prise en charge médicale ou hospitalière. Attends, c'est derrière, je pense qu'il faut que tu cliques sur le... Voilà. Voilà. Et donc une infirmière interrogée explique en service, tu te mets en situation. Je ne sais pas si tu as déjà été hospitalisé dans ta vie déjà, mais on te remet entre leurs mains. Tu ne peux pas faire autrement. Quand tu rentres, tu es dans un système. Tu n'as pas ta part d'autonomie. Et puis voilà, il faut juste l'accepter comme tel, quoi. Et donc ces situations de soins peuvent être vécues comme un abandon du contrôle de leur corps, qui s'avère parfois très problématique, voire conflictuel pour les patients sans abri. Parce que le contrôle de leur corps est le dernier rempart de protection qu'ils utilisent pour garder le contrôle de leur vie. Au cours de la carrière de survie, pour reprendre le concept de Pascal Pichon, au cours de leur carrière de survie, les individus SDF développent une connaissance précise de leur corps, dont ils deviennent ainsi des experts. Et en se sentant ainsi dépossédés de tout contrôle sur leur corps, de toute part d'autonomie, à l'hôpital ou plus généralement au cours des situations de soins, le patient sans-abri peut se sentir dépossédé du support sur lequel il fonde son identité, car le corps devient justement le support des mises en scène qui permettent de forger cette identité sociale et personnelle. Et donc en perdre le contrôle peut être très mal vécu. Donc mon deuxième point, la santé. Alors les données recueillies lors de mes observations et de mes entretiens montrent que les personnes sans abri définissent la santé en se concentrant sur la dimension de l'aptitude physique. Les motifs de consultation sont variés, mais le principal déclencheur est souvent le même, c'est-à-dire le fait que leur vie quotidienne soit troublée par leurs symptômes. En général, ils ne considèrent l'accès aux soins qu'à partir du moment où leurs maux les gênent dans leurs activités de tous les jours. Ce qu'on pourrait résumer en tant que l'on peut faire ce que l'on veut, c'est qu'on est en bonne santé. Yann Benoît arrive aux mêmes conclusions, explique que les SDF ne reconnaissent souvent la réalité de leur maladie qu'à partir du moment où celle-ci devient un handicap, c'est-à-dire lorsqu'elle les empêche de faire ce qu'ils jugent indispensable. Pour beaucoup, s'il n'y a pas de handicap, c'est qu'il n'y a pas de maladie. Par exemple, Arnaud, que j'ai rencontré en maraude, dit « La santé, c'est pouvoir faire ce que j'ai envie de faire ». Donc là, on remarque bien l'intrication entre les activités et la représentation de sa représentation de la santé. Et corrélativement, si la santé, c'est l'état dans lequel on peut faire ce que l'on veut, la maladie, c'est l'état opposé. Et ce rapport à la santé a des incidences sur leur recours aux soins et a pour conséquence extrême que de nombreuses personnes vivent dans la rue avec des pathologies sévères, voire létales, telles que le cancer, les hépatites B, C, le VIH, la cirrhose du foie, la tuberculose, sans que les malades ne se définissent comme tels, tant que leur quotidien n'est pas entravé par leur pathologie. Et donc celles-ci deviennent très difficiles à traiter car les patients SDF ne cherchent le soin que lorsque ces pathologies sont à un stade déjà avancé. Et donc parfois c'est compliqué de les soigner, de les guérir. voilà. Les soignants, quant à eux, ont une définition plus globale de la santé qui se rapproche plus d'une valeur, d'un capital à préserver, d'un état idéal que l'on chercherait à atteindre. Contrairement à l'état davantage pragmatique pour les personnes SDF. Et donc la santé, donc à ce sens large, avec plusieurs dimensions biologiques, psychologiques, sociales, c'est-à-dire l'entourage de la personne, sa position sociale, socio-économique, d'emploi, qui va influencer sa réaction, sa capacité à réagir à la maladie. Et il voit alors les individus sans-abri comme expressément vulnérables, et non conscients des potentielles répercussions de l'équilibre qu'ils entretiennent aujourd'hui sur leur santé future. Un infirmier interrogé explique que la santé réside justement dans cette capacité à faire face aux éventuelles pathologies plus que dans l'absence d'affection physique ou mentale. Or, il estime que c'est pas possible pour les personnes vivant dans la rue de faire face à ces pathologies. Donc là, il dit « Je pense que la santé, c'est plus la capacité de rester heureux malgré ce qui t'arrive. Si on est quelqu'un de sain, quelqu'un qui est en santé, il y a beaucoup de choses avec lesquelles il peut vivre. S'il a un diabète, il arrivera à vivre, et voilà, c'est une contrainte de la vie, mais il faut voir les choses du bon côté. Comment tu vis les choses qui t'arrivent, c'est plus ça, la santé. C'est pas juste avoir deux bras, deux jambes, pas de diabète, une bonne tension. » Et donc là, il dit « Parce que certains clochards, ils ont tout. Enfin, ils ont tout. Leur corps fonctionne bien. » Mais ce qui leur arrive, c'est leur... Ils se dégradent, on dirait que c'est un peu un suicide. Donc là, le comportement des individus sans-abri est carrément interprété comme un abandon de soi, de son corps, un suicide lent, tant il est difficile d'envisager d'autres manières de se représenter, de concevoir la santé. Voilà. Et donc ça peut être compris à la fois à travers la spécificité des professions de santé qui placent la santé au cœur de leur intervention, mais aussi via l'évolution sociétale qui nous pousse vers le soin, comme l'ont montré Claudine Herzlich et Marc Auger, qui nous montrent qu'il faut reconnaître la valeur toute particulière attachée aux soins dans notre société, et on peut soutenir l'idée que la légitimité reconnue à la maladie est parfois moins grande que celle accordée aux soins comme réponse prescrite et obligatoire à la maladie. On doit se soigner. Donc se soigner, d'accord, mais que veut dire guérir ? Alors, donc les différents rapports à la santé et au corps des soignants, des soignés sans abri, les amènent à envisager différemment donc la guérison, notamment parce qu'ils ne se réfèrent pas aux mêmes temporalités. Donc, les SDF ne se considèrent malades qu'à partir du moment où leurs symptômes perturbent leur vie quotidienne, et en retour, ils vont se considérer guéris dès que leurs symptômes n'entravent plus justement leurs activités. Mais d'un point de vue soignant, le processus de guérison n'est pas encore terminé à ce moment-là, au moment où justement ils arrêtent les soins ou les traitements. Au contraire, la guérison pour les soignants serait plutôt attestée par la disparition des symptômes cliniques ou biologiques. On chercherait même à la quantifier par différents modes d'investigation médicale, les résultats de prise de sang, de radio, d'IRM, qui certifieraient la guérison. Mais pour le patient sans abri, elle consiste davantage en le sentiment d'être à nouveau en mesure d'agir comme on veut, comme il l'entend. Et donc s'il cherche à reprendre ses activités habituelles le plus tôt possible, le soignant, lui, va plutôt se concentrer, va voir les possibles complications, rechutes, les séquelles qui pourraient être engendrées par cet arrêt prématuré des soins. Et donc là, on assiste à un important malentendu. En pensant parler de la même chose, donc de la guérison, ils se comprennent pas. D'autant plus que, comme la santé, la guérison a un espèce de caractère évident où, en fait, on a tous l'impression qu'on sait très bien ce que c'est, mais dès qu'on essaie d'y réfléchir, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Et donc, malheureusement, ce malentendu qui est difficile à dépasser donne l'impression qu'ils n'arriveront jamais à se comprendre. Et donc, ce processus de guérison qui ne comporte pas les mêmes étapes, selon le point de vue des soignants ou des soignés sans domicile, fait qu'ils tendent à arrêter les soins ou les traitements de manière prématurée par rapport aux conseils des médecins ou infirmiers. Ils ne suivent pas les étapes prescrites jusqu'au bout, jusqu'à ce que les soignants estimeraient que les soins sont encore nécessaires. Et donc ça donne l'impression aux soignants que les soignés sans abri ne se soucient pas de leur corps ni de leur santé, qui vivent dans un espèce de présentisme perpétuel qui les empêcherait de concevoir le futur, de l'anticiper. Mais plutôt que de ne pas prévoir le futur, les individus sans domicile se définissent plutôt d'autres priorités quotidiennes. Par exemple, Elias a subi en 2006 une intervention chirurgicale pour réparer sa rotule fracturée. Celle-ci a été cerclée et maintenant qu'elle est réparée, une seconde intervention doit être effectuée pour retirer le cerclage. Il est conscient de la nécessité de cette opération, il l'explique clairement, il annonce que sa rotule lui procure couramment des douleurs, mais en même temps il dit qu'aujourd'hui il a d'autres priorités. Et à propos de son médecin, il dit « Oui, c'est vrai, faudrait que j'aille le voir un de ces jours, mais maintenant la priorité pour moi c'est de m'en sortir. J'ai pas un gros problème de santé qui m'empêche de continuer, donc je ne pense pas que je vais le voir tout de suite. Mais bon, maintenant si mon genou me fait mal, c'est vrai que je serai obligée d'aller le voir pour faire l'opération. » Donc là, son discours montre que il accorde plus, enfin que il accorde de l'importance à sa santé, à sa guérison, mais en même temps, il est pris dans les engrenages d'une situation qui ne lui permet pas de s'en préoccuper autant qu'il le souhaiterait. Il ordonne alors ses actions en fonction d'une forme de rationalité en finalité, dont l'objectif primordial est de sortir de la rue pour les uns, donc pour lui par exemple, ou d'y survivre pour les autres. Et donc la vie à la rue représente un obstacle pour conserver sa santé et amène à une forme de fatalisme de la part des patients. Ils sont dans l'impossibilité de suivre certains soins, leurs conditions de vie ne sont pas favorables à la guérison. Et donc par exemple, Vlad annonce que lorsqu'on est malade dans la rue, si tu guéris dehors, tu guéris d'une maladie, mais tu attrapes une autre maladie. Et ce fatalisme se retrouve aussi du côté des soignants, qui expriment souvent un sentiment d'inutilité face à des prises en charge palliatives à répétition. Et cette impression de ne pas pouvoir améliorer la situation de leurs patients sans abri influe sur les comportements, sur leur comportement, puisqu'ils se sentent justement démunis, impuissants, ils ont l'impression qu'ils ont déjà mobilisé tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition, toujours en vain. Et donc ils risquent d'être moins attentifs, notamment dans les services, par exemple, d'accueil des urgences, où ils ont à faire face à énormément de patients et où ils ne peuvent pas forcément se consacrer à chacun comme ils le voudraient. Surtout pour ce genre de prise en charge. Et donc, l'impression de ne jamais pouvoir aller jusqu'au bout de leur travail, parce que même quand il y a une prise en charge qui s'engage, eux, ils n'ont jamais l'impression d'aller jusqu'au bout, donc vraiment, ça les décourage. Donc, par exemple, j'ai demandé aux soignants s'ils réagissaient différemment avec les patients SDF qu'avec les autres. Et un médecin me répond, pas dans mes activités de diagnostic, mais dans la conduite à tenir. C'est que je sais très bien que même essayer de lui donner un traitement, ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas si ça va être suivi déjà. Parce que dès qu'il a plus mal, il va s'arrêter, alors qu'il faudrait continuer à traiter. Et donc là, on voit bien cette frustration dans le « je sais pas quoi faire, de toute façon, il n'y a rien qui marche ». Voilà. Et donc il adopte un comportement différent par rapport à ces patients-là, et il continue. Ils sont, quand on est largement en deçà des normes des biens portants, donc vivre beaucoup moins longtemps. Donc, ils ne cherchent pas à vivre longtemps, si vous voulez, mais à vivre mieux. Et alors, il explique que dans sa pratique médicale, auprès de patients SDF, il oriente les soins vers ce qui permet une amélioration rapide et significative des symptômes aigus, sur le court terme, plutôt que chercher une guérison complète à long terme. Et donc, pour conclure, un cancérologue interrogé rappelle que ces difficultés de compréhension mutuelle sur ce que guérir veut dire et sur les étapes de la guérison au cours du soin ne sont pas spécifiques aux patients sans abri. Il dit l'idée qu'on a comme ça, que quand on est malade, on fait ce que disent les médecins et que quand on a un rendez-vous, on va à son rendez-vous, ça c'est dans les contes de fées. Je veux dire, il y a un certain nombre de malades qui ne viennent pas à leur rendez-vous, soit parce que ça les emmerde, soit parce qu'ils ont oublié, soit parce qu'ils ont mieux à faire. Alors pas tellement pendant le traitement, mais après pendant la surveillance. Il y a des patients qui disparaissent de la circulation. Donc malgré les similitudes que l'on peut retrouver en analysant les comportements des patients et des soignants, le rapport au corps, le rapport à la santé reste vraiment des variables individuelles et éminemment subjectives. Ce qui est intéressant au cours de l'interaction entre soignants et soignés sans domicile, c'est que si les soignants expriment d'importantes difficultés, une frustration importante par rapport au fait qu'ils ne réussissent jamais à traiter leurs patients sans abri jusqu'au bout, jusqu'à la guérison, les personnes sans abri interrogées, eux, ils ne se plaignent jamais de cet aspect. Mais au contraire, ils se concentrent sur la qualité de la relation qui a pu se créer ou non avec le soignant dans la prise en charge médicale. Hop. Et donc alors que le malentendu peut créer une certaine frustration, pouvant même aller jusqu'à rendre leur interaction conflictuelle, soignants et soignés sans abri réussissent toutefois à coopérer dans le soin dans la plupart des situations. Et à partir du moment justement où une relation de confiance a pu se créer entre eux, a pu s'établir, et c'est cette relation justement qui permet une négociation entre patients et soignants sur d'autres dimensions du soin qui vont pouvoir amener jusqu'à apporter la reconnaissance dont tous deux peuvent manquer. Voilà, merci de votre attention.
On va ouvrir sur des questions. Merci, cette équipe peuple. j'ai deux questions, mais je vais vous dire après ou avant. Est-ce qu'il y a des questions ? Déjà. J'avais la question. Bah, déjà, je trouve que c'est hyper précieux de nous donner accès justement à ce savoir des patients sans-abri. On a souvent l'impression de nous connaître. Donc, de nous ouvrir cette fenêtre-là sur leurs ressources. Et, voilà, j'avais une question sur le profil, en fait, avec quel sans-abri vous avez travaillé, depuis combien de temps ils étaient en rue, parce que je pense que ça peut changer aussi la donne. Et l'autre question que j'avais, c'était sur la relation de confiance, justement, qui peut être tissée entre soignants et soignés. Voilà, sur quelle clinique du lien, sur quelle alliance repose cette confiance?
Oui. Alors, j'ai rencontré, en fait, justement, comme j'ai été sur différents terrains, en l'occurrence, tout au long de ma thèse, j'étais travailleur social dans un lit halte soins santé, donc c'est un centre d'hébergement médicalisé. Donc là, je suivais ces patients-là dans ce centre-là, où il y avait des dimensions de soins, et je les accompagnais à leurs rendez-vous médicaux, donc soit à l'hôpital ou chez des praticiens libéraux. Voilà, après je faisais aussi des maraudes, j'allais dans différents centres de soins. Et donc au final, qui j'ai rencontré, c'est toujours la question de définir SDF, sans-abri, de qui on parle. Au final, j'ai rencontré des gens qui à la fois avaient des très longs parcours de rue, 10, 15, 20 ans, 30 ans sans-abri, ou des personnes qui sont dans des parcours qui sont pas forcément de rue dans le sens où ils passent pas la nuit dehors, mais c'est des gens qui n'ont pas de chez soi, qui sont pas forcément en situation irrégulière et qui sont tout le temps ballottés, soit entre le 115, donc l'hébergement d'urgence, soit éventuellement chez des compatriotes, ou enfin on ne sait pas trop. Voilà, après, donc c'est pour ça que j'utilise le concept de carrière de survie de Pascal Pichon, parce que justement il y a cette évolution, et on se rend compte que bien sûr les comportements sont pas toujours les mêmes au début ou à la fin de cette carrière. Alors je sais pas si on peut parler de fin de la carrière, parce que là le but c'est de survivre, c'est pas d'évoluer. Mais... après, il y a quand même vraiment des similitudes, notamment justement dans l'interaction avec les soignants qui tendent à traiter un peu tout le monde de la même manière, quoi. On voit qu'il y a absence de domicile ou que la domiciliation, c'est une domiciliation postale à la mairie. Et du coup, on va se dire, bon, ben, c'est un SDF. Voilà, je ne sais pas si ça répond à... Voilà. Et donc, la relation, en fait, la première variable, c'est le temps, je pense, qui permet justement cette relation de confiance. Souvent, c'est avec des personnes qui vont aller voir plusieurs fois, chez qui vont aller consulter plusieurs fois, ou alors dans le cas du centre d'hébergement, là, c'est des soignants, qui voient tous les jours ou toutes les semaines pour les médecins. Et du coup, il y a cette dimension qui peut se créer. Voilà. Après, c'est souvent une relation plus inter-individuelle que vraiment avec le soignant. Et par exemple, il y a beaucoup de situations où, par exemple, ils sont en mieux avec l'assistante sociale, donc ils vont décrire des symptômes, ils vont oser parler de leurs symptômes à l'assistante sociale parce qu'ils la connaissent bien depuis longtemps. Mais le médecin qu'ils ont jamais vu, ils vont pas lui dire qu'en fait, je sais pas, ils ont des plaies qui s'infectent. Ou... Voilà. Donc c'est pour ça que cette dimension de la relation, elle est vraiment à creuser, quoi. Voilà.
Du coup, par rapport à une carrière de survie, ça peut impliquer le rappel au corps de ces personnes, travaille aussi au fil de cette carrière, qui fait une situation par rapport au corps. Mais, parce qu'en fait, je trouvais dans ta présentation, je trouvais que. Ils peuvent être présentés comme des individus hypersensibles de leurs sensations corporelles, etc. Et justement, cette sensibilité, je me demande si elle varie pas selon le fait qu'on ait pu dormir ou pas, le fait qu'on ait pris des produits ou pas, le fait qu'on ait un espace pour dormir où on est seul, ou qu'on soit prévu une situation de promiscuité. Qu'est-ce que ça change du rapport au corps, de la sensibilité de ces personnes vis-à-vis de leur corps? Voilà, est-ce que ça n'est pas une dimension importante justement dans ces carrières de survie que le rapport au corps, qui tend lui aussi à varier selon différentes étapes, situations.
Oui, oui. Si, justement, c'est vraiment important et c'est même assez flagrant. Par exemple, j'ai pu suivre au final dans mon travail que j'avais commencé en master. Enfin, je travaillais pas sur la santé, je travaillais sur le rapport au temps des personnes SDF, mais au final, des personnes que j'ai pu rencontrer déjà en master, que j'ai continué à voir au cours de ma thèse. Donc, je les ai vues pendant plusieurs années et il y avait des gens qui, par exemple, quand je les ai rencontrés, ils étaient dans la rue depuis quelques mois et ils faisaient vraiment très attention à leur hygiène corporelle, à être toujours propre, à avoir des vêtements propres, bien rasés. Et en fait, on voyait vraiment une dégradation au fur et à mesure de cette évolution dans la carrière et justement un changement du rapport au corps. Alors, certains chercheurs parlent d'abandon du corps. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il est géré autrement plutôt que abandonné. Mais c'est sûr qu'il faut le mettre en relation avec les étapes de la carrière. Après, pour ce qui est de... du coup, vous parliez de comment on a pu dormir la nuit, tout ça. C'est sûr que ça joue. Après, je pense que la douleur, elle est vraiment négociée. Enfin, parce que là, je parle de la douleur, parce que c'est le symptôme un peu emblématique du rapport au corps, le rapport à la douleur. Souvent, il y a cette espèce de discours que les personnes sans abri ne ressentent plus la douleur, elles sont tellement détachées de leur corps qu'elles ne ressentent plus rien. Ouais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'essaie de montrer que, justement, elle la gère autrement, cette douleur, et que quand elle est connue, enfin, par exemple, j'ai un monsieur qui m'a expliqué que... Je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait, qu'il allait aller ou pas chez le médecin. Et il me disait, de toute façon, tu sais, moi j'ai mal partout. Alors bon, aller chez le médecin, c'est quand j'ai trouvé une nouvelle douleur. Quand j'ai un nouveau truc, que je sais pas d'où ça vient, là je vais peut-être aller chez le médecin, mais sinon... En fait, il y a une espèce d'habitude, d'accoutumance, je sais pas, à sa propre douleur. Et en fait, elle est gérée au quotidien. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à votre question. Mais...
Voilà, c'était juste, ouais. Ça, juste une réflexion
sur
l'hypersensibilité qui connaît peut-être des variations.
Peut-être
des niveaux de contrôle. Ouais. Voilà, est-ce que le contrôle, contrôler son corps, etc., ses états de corps, plus ou moins fort, il varie. Voilà, c'était
juste tout à répondre. D'accord. Ok, merci.
Peut-être juste, c'est plus une remarque qu'une question, parce qu'à la fin de ta communication, tu as parlé de... Enfin, les soignants se reportent un peu sur l'amélioration des symptômes plutôt que sur traiter les pathologies. Je me demandais si on ne pouvait pas faire un parallèle avec la notion de réduction des risques qu'on retrouve dans le domaine des drogues et qu'on retrouve peut-être aussi dans d'autres domaines, hein, qui est porté à la fois par des usagers, par des soignants, qui est de dire en fait si on ne peut pas stopper les conduites à risque entre guillemets, on va faire en sorte qu'elles comportent le moins de risques possible pour la personne, en particulier pour l'injection par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle ou pas.
Je sais pas non plus, mais ça paraît en effet assez pertinent. Ouais. Enfin, là, c'était vraiment flagrant dans l'entretien avec le médecin que j'ai cité. Là, c'est que lui, il disait vraiment adapter ses pratiques en partant du principe que de toute façon, il pourra pas les soigner, ses patients, il pourra pas les guérir. Du coup, il va essayer de les aider à gérer leur douleur, un symptôme, c'est pas différent, quoi. Ouais. Bah ouais, du coup, ça rejoint le puisqu'on peut pas régler le problème, autant essayer de faire du palliatif en fait et à faire que ce soit pas pire. Merci.
On va essayer comme ça. Alors, bon, merci de m'avoir invité. J'ai changé le titre. Je me suis un peu précipité quand on a fait la proposition. Sur la guérison, j'avais mis indicible. Je la transformerai et je mettrai plutôt impossible. Alors,